On est dans la première épître de Pierre et nous avons vu donc déjà auparavant que nous avons été élus pour une nouvelle naissance, hein, c'est la première grande partie de cette épître, et nous avons déjà parlé durant les deux ou trois dernières fois de l'espérance que constitue la nouvelle naissance. Et je vous avais parlé de trois points liés à cette espérance, c'est que nous avons un héritage futur, nous avions vu aussi qu'il y a une joie présente, et puis une révélation passée, c'est-à-dire qu'on nous a annoncé ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc ces trois choses, l'héritage futur, la joie présente et la révélation passée, constituent l'espérance qui est liée à notre nouvelle naissance. Et maintenant, nous allons voir qu'après avoir parlé de cette espérance de la nouvelle naissance, Pierre va plutôt axer son discours sur la sainteté de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que qui dit nouvelle naissance signifie sainteté. Alors, je rappelle que la sainteté comporte deux facettes principales. La première, c'est le fait que nous sommes mis à part. C'est-à-dire que nous sommes un peuple particulier, nous sommes mis de côté. Nous sommes pour Dieu, nous sommes en réserve de Dieu pour la vie éternelle. Donc ça, c'est un des sens de la sanctification. Mais le fait d'être mis à part sous-entend une vie de sainteté, c'est-à-dire une vie qui tend vers la pureté liée au caractère de Dieu, donc un processus de transformation. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la sanctification. Mais dans les deux cas, que ça soit le fait d'être mis à part, parce qu'on est toujours mis à part pour quelque chose. Des fois, on est mis à part pour une nation, c'est-à-dire que je suis né en France, normalement, je suis appelé à être français. Dans ce monde, je suis mis à part pour être français. On est mis à part dans notre famille aussi. On vit dans notre famille et pas dans une autre. Après, il y a nos passions, nos goûts qui nous mettent à part. Si j'aime le basket et que je suis dans un club, je suis mis à part pour ce club-là et pas pour un autre. Ma destinée, en tout cas mon futur sportif, est lié à ce club. Donc je suis mis à part. Donc on est toujours mis à part dans plusieurs domaines. Et ce qui est important, c'est de savoir pour qui ou pourquoi nous sommes mis à part. Beaucoup de gens se mettent à part pour des choses vaines. Mais Dieu, lui, nous a mis à part. Et la notion de sainteté, en hébreu, renferme cette notion de incomparable. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est que la sainteté part de quelque chose qui ne peut être comparé. Beaucoup de fois, dans la Bible, dans l'Ancien Testament notamment, l'Éternel dit à Israël, « À qui pourrez-vous me comparer ?» On voit souvent ça, Dieu interroge les hommes en disant « Mais vous allez me comparer à qui ?» Dieu est incomparable. Si je prends quelque chose dans la création, par exemple, je peux prendre même l'univers, je peux penser aux galaxies. Les galaxies, je ne peux pas comparer Dieu à une galaxie, parce que pour moi la galaxie, ça a l'air d'être l'infini, mais ça ne l'est pas en réalité. Une galaxie a des limites, alors que Dieu est infini. Donc on ne peut pas comparer l'infini et le fini. L'amour de Dieu est infini, donc l'amour de Dieu est incomparable. Je ne peux pas comparer l'amour de Dieu à l'amour humain, c'est incomparable. Et c'est dans ce sens-là que l'amour de Dieu est saint. C'est un amour qui est parfait en termes de qualité morale, mais si c'est un amour qui ne peut pas être comparé à un autre. Même si on utilise le mot amour par exemple. Le mot justice, pareil, c'est la justice de Dieu est incomparable, donc la justice de Dieu est sainte. L'omniscience de Dieu, le savoir de Dieu est incomparable au savoir humain. On ne peut pas le comparer. Donc c'est ça adorer Dieu, c'est adorer une personne qui ne peut être comparée. C'est incomparable. Le prix payé par Jésus-Christ, par son sang, ne peut être comparé au prix que l'homme pourrait donner pour ses péchés. C'est pour ça que les gens peuvent avoir toutes les religions qu'ils veulent et se sacrifier comme ils le peuvent. Les sacrifices humains sont incomparables comparés à le sacrifice de Dieu, l'envoyé de Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité. Donc c'est ça être sanctifié. Et alors que nous avons été mis à part par Dieu, nous devons croire, même si ça nous paraît parfois un petit peu étonnant, ou on a du mal à le croire, mais nous devons le croire par la foi, c'est que notre existence est incomparable. Un chrétien ne peut pas être comparé à celui qui ne connaît pas Dieu et qui ne connaît pas Christ. C'est incomparable. Alors bien entendu, s'agissant des vicissitudes de la vie et des difficultés de la vie, Des fois, on peut comparer, on a l'impression que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont des fois plus heureux que nous. C'est vrai. Mais s'agissant du sens de notre existence, la direction dans laquelle nous sommes engagés, l'objectif, le but de notre existence, l'espérance dont il est parlé dans la première partie de l'Épître, tout cela est incomparable. Je ne peux pas comparer mon existence en tant que chrétien vis-à-vis d'un autre chrétien. C'est incomparable. Et c'est ce qui nous amène à vivre dans la joie et dans cette espérance. Et encore une fois, cette comparaison, je ne peux pas la faire en fonction des situations quotidiennes de mon existence. Il y a une autre vie qui est incomparable. Et c'est celle-là que je dois rechercher dans mon quotidien. C'est cette vie qui ne peut pas être comparée. De la même manière, la nouvelle création que j'ai reçue, la nouvelle naissance, le fait que je suis maintenant en Christ, c'est incomparable. Et c'est pour ça que de plus en plus, nous allons mettre Dieu à la première place quand on va réaliser combien est incomparable les bénédictions qu'il nous offre. La cellule familiale, c'est une bénédiction, c'est Dieu qui nous donne cette possibilité de vivre cela, chrétien ou pas, mais il ne faut pas que la cellule familiale remplace la famille de Dieu et ce que je peux vivre avec Christ. C'est incomparable. La réussite matérielle, c'est incomparable comparé à la vie que je peux avoir. Et donc, tant qu'un chrétien ne vit pas dans ce qui est incomparable, c'est-à-dire dans ce qui est saint, il va être frustré parce qu'il a été mis à part. Il est saint lui-même, il a été mis à part. Et Dieu a pour lui une vie incomparable à vivre, à expérimenter. Et si je ne rentre pas dans cette dimension-là, je vais être frustré dans mon esprit, dans l'homme intérieur. Et ça attriste le Saint-Esprit. Donc, il faut avoir bien conscience de cela, c'est que la sainteté, c'est pas, il ne faut pas le voir uniquement sous le regard de la loi, vous savez, alors même si c'est spirituel, vous savez que Dieu dit dans Lévitique par exemple, vous serez saints car je suis saint, alors on voit ça comme un commandement, oulala, comment faire, et puis comme on n'y arrive pas en plus, et qu'on a une mauvaise compréhension de la sainteté, on se culpabilise. Non, c'est pas de cela dont il s'agit. Lorsque Dieu dit à Israël, vous serez saints car je suis saint, il est en train de dire à la nation d'Israël, votre nation ne peut pas être comparée aux autres. Elle est incomparable parce que c'est moi qui vous ai appelé et que c'est moi que vous allez glorifier. Donc c'est incomparable, incomparable. Dieu sait que les Juifs ne peuvent pas vivre parfaitement la loi de Dieu, c'est pour ça qu'il a proposé aussi les sacrifices. Il a donné la loi et les sacrifices. Il le savait très bien que la sainteté pleine et entière n'était pas possible, mais Israël devait tendre vers cette sainteté. Et quand vous avez quelqu'un comme David, par exemple, qui se présente devant Goliath, lui, il a l'air plus faible que Goliath, il a l'air moins équipé, il est plus jeune, etc., etc. Mais qu'est-ce que David manifeste, confesse ? C'est « mais cet homme est en train de maudire Dieu ». Et donc, David prend fait et cause pour Dieu parce qu'il est conscient que David, sujet d'Israël, est un homme qui ne peut pas être comparé à Goliath. Et que Goliath, c'est rien devant Dieu. Et donc, la grâce de Dieu qui est sur David va faire que David va obtenir la victoire par la foi. Parce que sa vie est incomparable. D'un point de vue humain et mondain, Goliath est supérieur, oui, mais la vie de David est incomparable. Et c'est comme ça qu'en marchant par la foi, on va pouvoir, comme dit Jésus, déplacer des montagnes. Et alors, ce qui est intéressant, là, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, et c'est quelque chose qu'on doit aussi avoir à l'esprit, c'est que d'un côté, et c'est vrai, bien entendu, on est appelé à recevoir des choses de Dieu. On a reçu l'Esprit, on a reçu des dons, on a reçu une compréhension spirituelle des choses qui nous a été données par Dieu, sinon on n'aurait pas pu. Donc Dieu a ouvert les yeux de notre cœur, etc. Donc on était aveugle, maintenant on voit, on est fortifié par l'Esprit. Donc voilà, c'est Dieu qui nous offre toutes ces bénédictions. Néanmoins, il y a quand même un domaine très important qu'il faut prendre en compte et qui dépend là pour le coup de nous, c'est que nous avons besoin de penser correctement. Lorsque la chute a eu lieu, ça a commencé dans la pensée de Ève. Le serpent a initié, a communiqué des informations, une fake news, hein, quelque chose de faux. Il a dit à Ève, c'est Dieu, il est en train de te cacher quelque chose. Donc c'était, et Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle croit, d'accord? Et des fois, plus les mensonges sont gros, plus ils sont crus. Mais c'est pas comme ça qu'on doit penser. On doit penser selon, non pas des nouvelles que même la chair peut nous communiquer, les pensées oui, que nous pouvons avoir en Adam, nous devons avoir les pensées de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, lorsque Pierre amène ce sujet de la sainteté dans la nouvelle naissance, il va commencer par nous préparer, si vous voulez. Cette préparation commence dans les pensées, et nous allons lire les versets 13 à 16 de du premier chapitre de cette première épître. 1 Pierre chapitre 1, versets 13 à 16. C'est pourquoi, donc le c'est pourquoi, c'est voilà, suite à cette espérance que constitue la nouvelle naissance, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Donc là, il y a cinq exhortations dans ces trois versets. La première, c'est que nous devons ceindre les reins de notre entendement. On doit serrer la ceinture à notre entendement. C'est-à-dire qu'on doit se tenir correctement au niveau des pensées. L'illustration nous parle là des paysans qui saignaient leur tunique pour mieux travailler. Le pantalon n'existait pas à l'époque, donc il n'y avait pas ce problème dans les assemblées de savoir si les filles avaient le droit de porter un pantalon ou pas, puisque même les hommes n'en portaient pas. D'accord ? Donc le sujet était réglé, tout le monde était habillé pareil. Donc à l'époque, les paysans qui avaient des tuniques, pour travailler plus aisément, il fallait qu'ils saignent leur ceinture et voilà, ils attachaient un peu le pan de leur tunique pour que les jambes soient dégagées et pour mieux travailler. Et de la même manière, alors pourquoi aussi, ça c'est un point important, pourquoi ils faisaient ça? C'est que c'est souvent pour préparer un travail difficile, se préparer à un travail difficile, une récolte, labourer la terre, tout autre travaux pénibles. Et vous savez, quand moi qui ai pu travailler dans une ferme, je vous le dis souvent, je connais un peu ça. Lorsqu'arrive l'été, par exemple, je prends l'exemple de la saison des foins, donc de l'herbe haute que l'on va couper fin juin à peu près, début juillet si la saison est tardive. On voit pousser l'herbe, mais à la limite, il n'y a rien à faire. Tout le travail a été fait en hiver ou en automne, donc il n'y a rien à faire de spécial. En revanche, quand les foins commencent à être mûrs, quand l'herbe est prête à être coupée, on se prépare psychologiquement, parce que en quelques jours, c'est la récolte qui se joue. Et donc, c'est l'année qui suit qui se joue. Donc, on prend pas ça à la légère, cette période de récolte. Et la première chose, je peux vous garantir qu'un agriculteur fait, quand il voit que l'herbe est prête, là, qu'il faut la couper, je peux vous dire que le baromètre, c'est l'idole de la maison. C'est-à-dire qu'on regarde la météo. Quel sera le temps qu'il va faire dans les prochains jours, parce qu'on peut pas couper l'herbe s'il pleut le lendemain. Il faut être sûr qu'il y ait quelques jours de beau temps pour avoir le temps de récolter cette herbe, parce qu'il faut la couper, ensuite il faut la faner, la faire sécher, la mettre en rang, la mettre en botte, la ramasser dans les chariots, etc. Donc ça prend plusieurs jours. Et si vous coupez l'herbe au mauvais moment, vous risquez de perdre votre récolte parce qu'elle va être complètement humide, mouillée par la pluie ou l'orage, et le foin va pourrir. Donc on se prépare. Et puis ensuite, quand la météo est clémente pour les prochains jours, je peux vous garantir aussi qu'on essaye de se coucher plus tôt la veille parce que les journées vont être très longues. On met le paquet, on appelle les voisins, parce que des fois d'un champ à un autre ou d'une, je dirais sur quelques à quelques kilomètres, il peut y avoir, ou selon aussi le sol, comment il est, de quoi il est constitué, les champs sont mûrs à des semaines différentes, ce qui fait qu'un paysan qui n'a pas encore son foin mûr va aider l'autre paysan et inversement. Donc on passe des coups de fil et voilà, on réunit une grosse équipe. On achète du pain en quantité, il y a le jambon qui est là, tout est là, on est prêt pour la récolte. Le tracteur, on met l'essence dedans, on met de l'huile là où il faut, enfin voilà, tout est prêt. Et ben de la même manière, nous on doit ceindre les reins de notre entendement, c'est-à-dire qu'on doit se préparer à cette vie de sanctification. C'est quelque chose qui se passe dans nos pensées. C'est pas, oh là là, on verra bien, et puis je zappe un peu, je regarde autre chose, je lis, je suis dans mes pensées. Non, la vie chrétienne commence dans nos pensées. C'est-à-dire qu'on doit ceindre les reins de notre entendement, parce qu'il y a des événements à vivre. Tout comme un paysan est prêt pour la récolte, où il est prêt à labourer, où il est prêt à des moments des moments particuliers de la saison. De la même manière, nous, on va ceindre les reins de notre entendement, et donc ça signifie là qu'on se concentre et on est prêt à obéir. De la même manière que la météo, pour une récolte, va imposer sa loi. De la même manière, comme le disait notre frère dans l'introduction, on est lié à la tête, à Jésus-Christ. Et en tant que membre, on est prêt à obéir. C'est-à-dire que si je ne suis pas concentré sur l'obéissance, je ne peux pas rentrer dans ce processus de sanctification. Et donc, Pierre le dit là. Rappelez-vous, en plus, on est dans un contexte de persécution, hein, d'épreuves, où il dit que voilà, c'est même une joie de traverser ces épreuves. Mais comment vivre les épreuves dans la joie si on n'est pas concentré? C'est impossible. On va être distrait par les persécutions. On va être même broyé parfois par les persécutions ou les malheurs. Donc, on a besoin d'être concentré, de ceindre les reins de notre entendement. Et donc, c'est une obéissance qui est un acte de conscient de la volonté. De la même manière, vous savez, quand en Galates, par exemple, il est dit, lorsqu'on reprend un frère, on doit le reprendre avec douceur, de peur que moi-même nous tombions. Jésus nous encourage, avant de donner notre offrande, si on a un problème avec un frère ou une sœur, d'aller le voir. Et bien, tout ça, ça nous parle des relations dans le corps de Christ. On a besoin d'être concentré pour agir comme ça. C'est-à-dire qu'on décide d'obéir à ces ordonnances divines. Parce que sinon, on peut être pris par les émotions, par notre justice propre, par une habitude, un mode de vie, un schéma. Et ce qui fait qu'on, ça s'appelle vivre selon la chair, si on n'est pas concentré. Parce que la chair, elle est comme, comment dire, elle est autoprogrammée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être concentré. Le tempérament, il est là. Les humeurs sont là, la fatigue est là, la subjectivité est là, et puis on réagit, on appelle ça, naturellement. Et la vie chrétienne, c'est pas de vivre naturellement, c'est de vivre spirituellement. Alors bien entendu, plus on est concentré, plus il y a des habitudes de vie qui s'installent. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Moi, je sais que dans ma vie, il y a des choses qui posaient problème dans ma vie chrétienne il y a quelques années, et qui aujourd'hui, j'y pense même plus, et quand le même schéma arrive, je suis plus atteint parce que c'est devenu un autre mode de vie. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, je ressemble plus à Christ. Mais pour le reste, on a besoin d'être concentré toute l'existence qui nous reste à vivre, et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont concentrés sur d'autres choses au lieu d'être concentrés sur cette période qui vient où nous allons un jour recevoir les bénédictions et rentrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire rentrer dans une autre vie. Et c'est dans ce sens-là que nous devons être concentrés. On est concentré sur la récolte, on est concentré sur l'héritage, on est concentré sur ce que nous allons recevoir dans l'éternité lorsqu'il y aura l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre... Vous savez, dans le contexte là où Pierre en parle, il n'était pas sûr que les lecteurs allaient voir quelque part des réponses à leurs prières terrestres. J'imagine qu'ils devaient prier pour que la persécution s'arrête, pour que leur famille soit gardée. Peut-être que Dieu n'a pas répondu à ce genre de prière. Et donc comment ces chrétiens sont morts ? La seule chose qui leur restait, c'est l'espérance de la gloire à venir. Ils devaient être concentrés dans leur pensée sur cette espérance. Ils devaient ceindre les reins de leur entendement. Et on a besoin de cette obéissance résolue qui engendre la sainteté pour agir. Rappelez-vous, dans Exode chapitre 12, verset 11, c'est le passage, vous savez, où le peuple d'Israël doit partir après qu'il y a eu toutes les plaies d'Égypte. Et donc, il y a la première Pâque qui est célébrée. Et en Exode 12, 11, il est dit « Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains », c'est-à-dire ils seront habillés d'une manière où ils doivent être prêts à partir et à marcher. Donc il dit « Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel ». Donc vous voyez, on voit là que le peuple devait être prêt à partir. Et de la même manière, nous, on doit être prêts à partir. On doit avoir les souliers de la vie éternelle. On doit avoir le bâton de la vie éternelle. Et là, il leur est demandé de manger. Alors en plus c'était festif puisque ça célébrait la Pâque et donc l'œuvre de Christ à venir et c'était un des premiers sacrifices. Mais en même temps ils avaient quand même besoin de manger et nous dans la vie on a besoin de vivre certaines choses. On a besoin de manger, de se vêtir, de travailler, de vivre. C'est notre vie. Mais on doit vivre comme des pèlerins d'une certaine manière. Et vivre en tant que pèlerin, c'est être concentré. C'est être concentré et de se dire, voilà, je sais pas, moi j'ai un appartement, je suis en train de le payer, c'est un investissement. Oui, mais ça, je vais pas l'emmener avec moi. Donc je vais pas être concentré là-dessus. Alors peut-être qu'il va y avoir une crise immobilière et donc les prix vont baisser. Eh ben je vais pas être concentré là-dessus. Je vais être concentré sur ce qui m'attend là-haut. Vous voyez, on va ceindre les reins de notre entendement et ce ne sont pas nos finances qui vont être notre idole ou notre maladie, notre vieillesse, les soucis dans l'éducation de nos enfants. On va ceindre les reins de notre entendement pour pouvoir vivre dans la sainteté. Ensuite, et vous allez voir que c'est lié, soyez sobre, deuxième point. Il demande à ce que l'on soit sobre. C'est intéressant parce que dans la même épître, ça revient deux autres fois. Il est dit dans 1 Pierre 4,7, la fin de toute chose est proche. Donc vous voyez, il y a encore cette notion de gloire qui est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ensuite, il dit au chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc c'est intéressant parce qu'au chapitre 5, on est sobre pour discerner les ruses du diable, et au chapitre 4, on est sobre pour discerner la venue de Jésus-Christ. Donc c'est comme si on était concentré là sur l'ensemble du combat qu'il y a entre Dieu et le diable. Et là, dans le chapitre 1, c'est plutôt lié à l'entendement, on doit être sobre et donc être concentré. Et Paul en parle ailleurs de cette sobriété. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, par exemple, au verset 6, il dit « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Au verset 8 du même chapitre, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. » Vous voyez, c'est intéressant, il y a le mot « espérance » encore. L'espérance du salut, la charité, la foi. Donc on voit que Paul aussi, comme Pierre, a utilisé là ce mot de sobriété. Il en parle aussi dans une épître pastorale, en 2 Timothée 4,5. En parlant à Timothée, il dit « Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Vous voyez, c'est la même idée. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc la sobriété est quelque chose de très important. Là, le mot sobre en grec, c'est néphontès, qui est toujours utilisé de façon figurative dans le Nouveau Testament. C'est pas un mot, parce que nous, sobre, on l'oppose, et en grec aussi d'ailleurs dans d'autres contextes, c'est opposé à l'alcool ou à l'ivresse. Mais là, ça parle plutôt d'une maîtrise de soi dans les pensées. C'est qu'il ne doit pas y avoir, tout comme l'ivresse, qu'est-ce que c'est que l'ivresse? C'est l'excès. Donc quand on est ivre, on est excessivement joyeux pour certains, excessivement maladroit pour d'autres, excessivement colérique pour d'autres, excessivement endormi pour d'autres. Donc l'ivresse, en fait, engendre des excès. Ben, de la même manière, là, on doit être sobre pour pas, si vous voulez, être ivre dans nos humeurs, dans nos pensées, etc. On doit être modéré. Et c'est ça l'ivresse, c'est qu'on doit, être exempt d'excès mental ou spirituel, si vous voulez. Là, ils traversent une persécution dans l'épître de Pierre. Ils sont en difficulté et ça pourrait envahir toutes leurs émotions, envahir toutes leurs pensées, les mettre, les rendre incapables de vivre pieusement. Et l'auteur dit là, soyez sobre, c'est-à-dire maîtrisez-vous dans vos pensées, pas d'excès mental, pas d'excès spirituel. Pour le dire autrement, et parce que on voit ça dans les Écritures, ça nous parle du repos en réalité. Ça signifie que nous devons vivre dans le repos de la foi. Le repos de la foi évite les excès, cette forme d'ivresse émotionnelle liée à nos pensées et à notre intelligence. Donc, les circonstances extérieures doivent être contrôlées. Non, je vais le dire autrement. Si j'ai une épreuve à l'extérieur, je peux pas la contrôler. J'ai un accident de la route, je suis même blessé, je vais à l'hôpital, je ne peux pas contrôler ça. Les événements s'imposent à moi, c'est clair. Mais par contre, la sobriété, c'est que je suis contrôlé à l'intérieur et ça, ça dépend de moi. Vous voyez, c'est qu'il y a un contrôle intérieur. Là, dans l'épître de Pierre, les gens subissaient la persécution, ils pouvaient rien y faire. C'était permis par Dieu, c'était pas lié à un péché, ça faisait partie de la guerre spirituelle et ils étaient donc, soumis à cette guerre et ils en supportaient les conséquences. Mais à l'intérieur, la sobriété permet d'avoir un contrôle, la maîtrise de soi. Alors évidemment la maîtrise de soi physiquement parlant, mais aussi au niveau des pensées. Donc vous voyez, c'est un exercice spirituel, c'est pas quelque chose comme ça, la foi, bon, l'espérance, je sais que Jésus revient, et puis je passe à autre chose. Non, je suis concentré, je vais rencontrer le Seigneur. Ma vie va passer au tribunal de Christ. Je vais recevoir des récompenses si je dois en recevoir. Je vais me marier avec Christ. L'Église va se marier avec Christ. Je veux dire, quand quelqu'un se prépare à se marier, je peux vous garantir qu'il s'y prépare. Hein. Donc il continue de travailler, il continue de dormir, mais le mariage devient un sujet important dans son existence, ou la préparation. Et ben là, c'est la même chose. On se prépare à rencontrer Christ. Et donc, dans nos pensées, on se prépare. Et c'est ce que le diable essaye, lui, à l'inverse, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous distraire. Il va nous distraire par des souffrances, ou il va nous distraire même par ce qu'on appellerait des bénédictions. Il fera tout de toute façon pour qu'on oublie le Seigneur. Et donc ça, c'est un point très important. Ensuite, il est dit, donc je rappelle le verset, donc c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance. Là, le mot entière, c'est complètement ou immuablement, c'est-à-dire voilà, je sais que ça bougera pas, c'est une espérance. Et ça parle de quelque chose qui est sans réserve, si vous voulez. C'est j'ai cette espérance. Alors le lien là qu'il fait quand il parle d'entière espérance, c'est il fait référence au verset 10, hein, où il est parlé de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est ça l'entière espérance que j'ai. S'il y a une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ va apparaître dans ma vie un jour. Voilà. Mes amis, c'est la seule certitude. Je ne sais pas comment je vais mourir, je ne sais pas quel sera le reste de ma vie, je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain, je ne sais pas comment vous allez être demain, je ne sais pas ce que nous allons vivre, enfin bref, je ne sais rien. C'est-à-dire, là, à part, ce que je sais, c'est là ce que je suis en train de vivre. Ce que je vais vivre dans 10 secondes, je ne le sais pas. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 secondes. Alors, comptons ensemble, mes amis. Non, je blague, mais en réalité, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu ensemble en tant que corps de Christ, avec le départ de notre frère la semaine dernière, c'est exactement ça. On ne pouvait pas prévoir. On ne sait rien, en réalité. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que Jésus-Christ apparaîtra. Ça, on le sait. C'est sûr et certain. C'est l'événement majeur, enfin, c'est le seul événement dont je suis sûr. C'est que Jésus-Christ va apparaître. Donc ça c'est une certitude, et en plus c'est une certitude joyeuse, d'accord? Parce qu'être certain de quelque chose de mauvais, c'est pas rigolo. Mais nous c'est en plus une bonne nouvelle, cette certitude. Et donc c'est ça qui remplit notre cœur, et nous avons besoin d'y penser, nous avons besoin d'être concentrés sur cette vérité. Sinon on passe à côté du plan de Dieu pour notre vie, je le dis littéralement, parce que le plan de Dieu pour notre vie, ça comporte plusieurs choses, mais vous savez, quand j'ai pas le verset là parce que je vous le dis de tête, mais dans la première épître de Timothée, ou la deuxième, en tout cas c'est à Timothée que Paul écrit, que celui qui espéreront dans l'avènement du Seigneur Jésus-Christ auront quoi? Une récompense, ils auront une couronne. Il y aura une couronne pour ceux qui espéreront dans la gloire à venir et la venue de Jésus-Christ. Vous voyez, donc s'il y a une récompense à la clé, ça veut dire que c'est le plan de Dieu pour notre vie aujourd'hui. Et en plus, c'est pas simplement pour faire plaisir au Seigneur, c'est que présentement, ça va nous aider à vivre, ça va nous aider à traverser les épreuves qui sont les nôtres. Donc on doit avoir une espérance pleine et entière, sans réserve, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, le mot apparaître, hein, vous allez reconnaître, c'est apokalypsei, qui a donné apocalypse, puisque le mot apocalypse en grec signifie révélation de Jésus-Christ. Et donc, on a une espérance sans réserve pour la gloire à venir, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et donc ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera portée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, je m'arrête encore, je n'avais pas pensé en me préparant, mais ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire que l'apparition de Jésus-Christ va être une grâce pour nous. Pensez que pour certains, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, ce sera un jugement qui se passera. Ce ne sera pas une bonne nouvelle pour eux. Eux, ils n'espèrent pas en l'arrivée de Jésus-Christ, puisqu'ils n'y croient pas. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ, lorsqu'il apparaîtra, ce n'est pas une grâce qu'ils recevront, c'est un jugement. C'est la colère de Dieu. Donc, vous voyez combien nous sommes bénis. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, nous avons une espérance. Pourquoi ? Parce que c'est une grâce qui va nous être apportée d'avoir Jésus-Christ qui apparaît dans notre existence. C'est « waouh, enfin, waouh, voilà, Seigneur, t'es mort pour que je sois là, dans ta présence, et moi j'ai cru en toi pour que tu sois là, dans ma présence. Voilà. Toi tu as combattu pour moi, moi j'ai cru en ton combat et en ta victoire à la croix, et bien Seigneur, on est là, ça y est, on y est. Quelle grâce, quelle grâce. » Mes amis, ça c'est la vie chrétienne. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est pas uniquement est-ce que je fais assez, qu'est-ce que je dois faire et tout. Il y a une partie de la vie chrétienne, mais qui consiste évidemment à faire l'œuvre de Dieu. Mais une grande partie de la vie chrétienne, c'est à penser l'œuvre de Dieu. On doit penser à l'œuvre de Dieu, avoir cette grande espérance. Alors, ensuite, il y a une quatrième chose qui nous est demandé, donc je relis le verset 13 et suivant, « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants. » Donc vous voyez, là, il y a cette notion d'obéissance, donc c'est encore une fois dans les pensées, dans la volonté. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Donc là, c'est très intéressant. D'abord, le verbe là, « ne vous conformez pas », syskématizoménoï, celui qui arrive à l'écrire correctement, vous l'envoyez par email et vous aurez un bon point. Donc syskématosimoï, ça signifie, ça donnait le mot schéma, schématique en français. C'est en fait, on va copier quelque chose, on va copier un schéma, si vous voulez. Donc ne vous conformez pas, c'est le même verbe utilisé en Romains 12.1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez que c'est encore les idées qui comptent, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais là où il y a une différence, c'est qu'en Paul, en Romains 12.1, il nous demande de ne pas être conformes au siècle présent, c'est-à-dire au monde. En revanche, Pierre, lui, il demande de ne pas être conformes aux convoitises que l'on avait autrefois. Donc en fait, ça signifie ne pas être conforme à la chair. Alors, ça nous paraît évident, mais ça sous-entend, il utilise à la fois un passé en disant « ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois », mais ça sous-entend qu'elles sont encore là. Et on le sait, selon Romains 7, on a encore les deux natures. C'est-à-dire que si je ne suis pas concentré, si je ne suis pas sobre, si je n'espère pas dans l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, je risque de penser naturellement et de rentrer dans les convoitises que j'avais autrefois, mais qui peuvent redevenir présentes. C'est une autre manière de dire, il faut prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est mourir à ses passions, c'est mourir à son ego. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est un exercice mental, c'est un exercice de la pensée. Et donc, en Romains, on ne se conforme pas au monde, mais là, dans 1 Pierre, on ne se conforme pas au premier homme, en la chair, en Adam, au tempérament naturel, et aux convoitises et à l'ancienne vie de péché. Et en Éphésiens 2.3, Paul écrit ceci, « Nous tous, nous étions de leur nombre, donc de ceux qui ne connaissent pas Christ, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au chapitre 4, verset 18, toujours en Éphésiens, en parlant des non-croyants, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc vous voyez, l'homme naturel qui ne connaît pas Dieu, il est ignorant de la vie de Dieu. Donc comme il est ignorant de la vie de Dieu, Il a ses convoitises. Nous, nous avons été éclairés par la parole de Dieu, la semence incorruptible. Et donc, nous ne sommes plus ignorants. Mais pour vivre ce savoir, si vous voulez, pour vivre cette connaissance que nous avons reçue de la vérité, nous avons besoin d'être concentrés. Parce que si nous ne sommes pas concentrés et sobres, nous allons vivre comme si nous étions ignorants. On va ignorer les pensées de Dieu, on va ignorer ce qu'il nous demande, on va ignorer son plan. Et c'est la vie naturelle qui va prendre le dessus. Alors pour certains, ça peut être l'orgueil, la déprime, le manque de maîtrise de soi, la vanité, l'orgueil, la cupidité. Toutes ces choses qui sont liées à l'ignorance de Dieu, de son caractère, de sa personne et de sa volonté. Et donc, connaître Dieu, en réalité, c'est ne plus se connaître selon la chair. Mais plus se connaître selon la chair, ça doit être une réalité doctrinale, théologique et spirituelle. Par exemple, je sais que je suis mort en Christ, puisque si Christ est mort, moi je suis mort. Donc ça, c'est le côté doctrinal. Mais je dois aussi l'appréhender dans mon existence pratique, dans mes pensées. C'est-à-dire, plus je vais connaître Dieu dans mon expérience, parce que je suis sobre et concentré, plus je vais me connaître. Et donc, je vais devenir de plus en plus saint. Je vais rentrer dans ce processus de sanctification. Et c'est pour ça d'ailleurs que on va être des enfants obéissants. C'est ainsi que Pierre veut nous, que Paul pardon a écrit cela. On doit être des enfants obéissants. Alors attendez, là je retrouve plus mes notes. Oui voilà. Donc reconnaître la sainteté de Dieu, reconnaître le fait que Dieu est quelqu'un d'à part, va nous amener à vivre notre propre sainteté. On va être des enfants obéissants qui sont façonnés par le caractère de Dieu. Et donc, c'est tout ça le plan de Dieu, au milieu peut-être des tribulations, des difficultés. Et alors, il termine par cette cinquième exhortation, je rappelle, hein, c'est la première, c'était cindre les reins de notre entendement, la deuxième d'être sobre, la troisième d'avoir une entière espérance, la quatrième de ne pas être conforme aux convoitises que nous avions autrefois, et la cinquième c'est soyez saints. Donc dans tout ce que nous faisons, le style de notre vie doit refléter non pas l'ignorance, mais la sainteté, c'est-à-dire la conscience d'avoir été mis à part. C'est ce qui va se passer avec Israël. Regardez, Israël quitte l'Égypte. Ils ont été mis à part par Dieu. Mais avant d'entrer en terre promise, qu'est-ce que Dieu leur donne ? La loi. C'est-à-dire qu'ils ne doivent plus être ignorants sur ce que Dieu attend d'eux en terre promise. Vous voyez, la terre promise, c'est pas simplement « Ah ben j'ai un bout de terre et je vais y faire ce que je veux ». Pour utiliser les mêmes expressions que j'utilisais tout à l'heure, je vais être dans la chair, je vais être dans mes pensées, je vais être dans mon moi, dans mon ego. Non, 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 non. Tu rentres sur la terre qui est pour toi, tu vas en profiter, tu vas être béni, mais voilà mes exigences, voilà ce que j'attends de toi. Donc je te donne la loi. Et donc il y aura toutes les ordonnances sociales, spirituelles, sacrificielles, tout ce que Dieu veut pour son peuple va être contenu dans la loi. De la même manière, nous avons la pleine révélation de la parole de Dieu, de la Bible tout entière, que l'on interprète au regard de l'œuvre accomplie à la croix de Jésus-Christ, donc selon la Nouvelle Alliance. Et à partir de ce moment-là, nous sommes de moins en moins ignorants sur la personne de Dieu, sur ce qu'il veut, mais nous sommes de moins en moins ignorants sur ce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire que nous continuons d'expérimenter de plus en plus le caractère de notre Dieu parce que nous ne sommes plus dans l'ignorance. Vous savez, je pense à l'école par exemple. On a tous été à l'école, on a des diplômes à des degrés différents. Mais je suis sûr que la personne qui est peut-être la plus diplômée dans l'église, si je lui parle d'une matière qu'elle a étudiée lorsqu'elle avait 22 ans, et qu'elle puisse me redonner le cours, il va y avoir un peu, ça va être tendu. C'est que la personne, pourquoi ? Parce que la personne, elle a peut-être eu des bonnes notes à l'époque, mais elle n'a pas besoin d'utiliser cette matière-là ou ce savoir dans son quotidien, donc elle a oublié. Et ben de la même manière, nous sommes enseignés, nous écoutons la parole de Dieu, nous lisons notre Bible, mais nous avons besoin d'expérimenter la chose, la connaissance, la vérité. Et quand nous rentrons dans ce mode de vie, nous devenons saints. C'est-à-dire que nous ne sommes plus les auditeurs oublieux. Nous ne laissons pas tomber la parole à terre. Nous sommes ancrés dans la vérité. Et donc, ce qui est important, c'est que quand Pierre dit là « soyez saints », c'est pas quelque chose, c'est pas une exigence légale ou juridique, tu sais, sois saint, sinon il y a le marteau du juge qui va te frapper la tête. C'est plutôt une responsabilité qui nous est donnée. Eh, t'as une sacrée responsabilité, ça t'est offert, t'as été mis à part pour Dieu pour l'éternité. T'as une sacrée responsabilité. C'est un peu comme lorsque, lorsqu'un enfant, je sais pas, oui, peut-être reçoit un héritage. Imaginons que son père avait une usine de 250 personnes, etc. Il reçoit en héritage cette usine, il a une sacrée responsabilité. Parce que c'est lui qui va faire des choix maintenant et qui vont avoir des conséquences. Ben, de la même manière, Dieu nous a donné une responsabilité extraordinaire. Nous sommes ambassadeurs de Christ, nous sommes là pour glorifier Dieu, nous sommes le sel de la terre, nous sommes les témoins de l'Évangile, nous sommes les héros dans le sens écrit AUT, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui un porte-voix, on communique la pensée de Dieu, on manifeste le caractère de Dieu, on ressemble de plus en plus à Christ. C'est-à-dire que quand il est dit « Soyez saints », c'est « Prends en main les responsabilités que je te donne, je t'offre quelque chose de merveilleux ». Il y en a qui ont des problèmes de couple des fois et je leur dis « Mais vous avez autre chose à vivre ». Pas évidemment, la vie que vous avez dans votre vie de couple, c'est n'importe quoi, on est d'accord là-dessus. Mais à la limite, arrêtons même de parler de tout ça. Rendez-vous compte de la responsabilité que vous avez. C'est-à-dire que c'est un privilège d'être chrétien et marié. C'est un privilège d'être parent chrétien. C'est un privilège d'être collègue de travail chrétien là où on est. C'est un privilège d'être chrétien dans une famille qui ne l'est pas. C'est un privilège. C'est-à-dire que saisissons tout ce que nous avons. C'est extraordinaire. Nous sommes d'un côté, oui, l'Éternel est notre bannière, mais croyons-nous, est-ce que nous croyons que nous sommes aussi la bannière pour les autres? Est-ce que nous croyons que peut-être on va diriger des gens dans une bonne direction? C'est une sacrée responsabilité, c'est pas simplement une loi, sois saint. C'est, voilà ton espérance. Tu as une grâce particulière, c'est que quand Jésus-Christ va apparaître, tu vas être béni. Et aujourd'hui, tu es déjà béni de toute bénédiction spirituelle, comme dit Paul en Éphésiens. Et donc maintenant, bien sûr, on ne peut pas atteindre la sainteté absolue, mais dans tous les domaines de notre vie, on tend à être conforme à la volonté de Dieu. Et ça rejoint évidemment, lorsque Pierre parle de ça, hein, Lévitique 11, je vous en parlais tout à l'heure, 44 et 45, « Je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Et vous vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Donc là, ça part de l'idolâtrie. En chapitre 19, verset 2, toujours en Lévitique, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Il est incomparable, donc son peuple est incomparable. Dieu a un plan incomparable, donc le plan de Dieu pour ma vie est incomparable. Dieu est mon père, c'est un père incomparable, donc je suis un enfant incomparable. Vous voyez, tout est incomparable. Chapitre 20, verset 7, toujours en Lévitique. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc en fait, reconnaître que Dieu est saint va me faire vivre comme lui. Je vous en ai parlé l'autre fois, je crois que c'était, je sais plus, enfin j'ai déjà communiqué ça. Oui, c'était le temps qu'on a eu mercredi soir. Mais en fonction du Dieu que nous avons, nous deviendrons comme lui. Encore une fois, si mon Dieu est l'argent, je vais vivre en fonction de ça. Si mon Dieu est le sexe, je vais vivre en fonction de ça. Si mon Dieu est le matérialisme, je vais vivre en fonction de ça. Si mon Dieu c'est la famille, je vais vivre uniquement en fonction de ma famille. Si mon Dieu c'est le travail, je vais vivre en fonction du travail. Par contre, si mon Dieu c'est Dieu, je vais vivre en fonction de lui et je vais de plus en plus glorifier sa personne et être de plus en plus conforme à son image. Et donc qu'est-ce que je fais pour ça? Eh ben, je ceins les reins de mon entendement, je suis concentré, je suis sobre, j'ai une entière espérance pour l'apparition de Christ, je me conforme pas aux convoitises passées quand j'étais dans l'ignorance de Dieu, et donc je suis mis à part et je suis de plus en plus saint, même au milieu d'un monde tumultueux. Que Dieu vous bénisse.